France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Laissez-moi emprunter à notre invité une formule qui est à lui. Ami auditeur, nous voulions faire ce téléphone sonne, nous y tenions vraiment, et Nicolas Demorand, puisque c'est lui, le voulait aussi. Je vous salue, Nicolas.
Bonsoir, Fabien.
Merci beaucoup d'être ici. Parce que vous êtes chez vous, Nicolas, vous avez présenté cette émission avant moi, et vous en savez le pouvoir. Ici, on se parle, on entre dans l'intime, et on est même parfois bouleversé. Ici, nous avons déjà fait des émissions sur la maladie mentale, bien sûr, et sur la bipolarité aussi, mais cette fois-ci, c'est particulier. Si nous avons déjà autant de messages, c'est sans doute parce que vous avez mis des mots pour ceux qui ne parviennent pas toujours à formuler ce qui explose dans leur tête. Et je peux les imaginer se dire en vous lisant, c'est exactement ça, c'est ce que je ressens aussi. C'est particulier évidemment parce que c'est vous, la voix qui nous réveille, qu'on met plus fort pour couvrir le bruit de la douche ou de la brosse à dents électrique. Mais désormais, on le sait, c'est nous qui sommes sous la douche, mais c'est vous qui êtes à poil parfois devant nous. Parce que vous ne cachez rien du pire ou du moins pire. Là aussi, si parmi les gens qui se reconnaissent dans cet art de la dissimulation, un seul, depuis vous, a réussi à parler à ses proches ou à ses collègues, c'est déjà une victoire. Je voudrais aussi dire à ceux qui n'ont pas encore lu votre livre que parfois, on rigole. J'imagine que c'est le propre des gens qui connaissent très bien leur maladie, au point de savoir aussi la regarder, les emmener parfois dans des endroits incongrus. On a bien compris que vous n'alliez pas tout de suite adhérer à l'amical des serviettes éponges. La thalasso, c'est pas votre truc.
Surtout pas.
Vous dites aussi que sous kétamine, un jour, vous avez trouvé la recette du monde. Et là, Nicolas, par le temps qui court, je me demande juste si vous l'avez gardée. C'est le téléphone sonne, les amis. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Maïlys, c'est vous la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Je tenais à dire que j'étais très très touchée par le témoignage de Nicolas Demorand, car il a su exprimer ce que tous les bipolaires ressentent à un moment donné. Cette incompréhension dans le cadre du travail par peur du jugement, de peur d'être incompris aussi de ses amis, de les perdre quand ils voient les hauts et les bas que l'on peut avoir. De ce parcours aussi du combattant, hein, pour donner le change, pour avancer, pour se relever, pour continuer à vivre, même si des fois on n'a plus envie. Mais qu'on sait qu'il y a tous ces moments de bonheur, qu'on doit quand même se battre contre cette maladie, pour vivre avec sa famille, avec ses amis, pour ne jamais renoncer. Et je suis très touchée que Nicolas Demorand, comme tous les bipolaires peut-être, ait mis sa notoriété finalement pour faire avancer cette maladie, pour parler de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, et de ce que vivent beaucoup de bipolaires qui mettent des années à avoir un diagnostic.
Maïlys,
comme c'est le cas pour moi également, où j'ai mis...
Voilà, j'allais vous poser la question si c'était vous qui étiez directement concerné ou quelqu'un de votre proche, mais c'est vous donc.
Non, c'est moi. Ouais.
Merci beaucoup Maïlys pour votre témoignage. Nicolas, on peut dire qu'il y a du monde vraiment ce soir, et du monde d'abord pour vous remercier, on en citera quelques-uns, mais aussi pour parler de parcours qui, au fond, sont tous les mêmes. Et c'est ça qui est terriblement déroutant, en fait.
Oui,
c'est de se dire que c'est toujours le même parcours.
C'est toujours le même parcours qui commence le plus souvent par une très longue errance médicale où vous passez d'abord de généraliste en généraliste en généraliste en généraliste. On vous change peut-être parfois vos antidépresseurs parce que c'est très souvent pour un moment de dépression qu'on va voir son médecin. Et plus ça va, moins ça va au fond. Et plus ça va, plus la situation se tend, plus elle devient risquée. Et plus vous souffrez psychiquement, mais aussi physiquement, parce que la douleur psychique est une douleur physique, vous crevez de souffrance. Et un jour, par miracle, et ça ne devrait pas être par miracle, mais un jour, vous rencontrez le bon médecin qui fait le bon diagnostic. Et à partir de là, il faut trouver les bons médicaments. Mais au moins, vous êtes pris en main. Au moins, vous êtes pris en charge. Parce que l'errance médicale est absolument catastrophique.
Le point commun entre tous les témoignages et qu'on retrouve aussi dans votre livre, c'est vraiment ça. C'est la personne qu'on rencontre, en fait, le moment où on croise le bon médecin. Alors pour vous, effectivement, ça a été, comme pour beaucoup d'autres, extrêmement tardif. C'est tellement une question de personne.
Oui,
en fait.
c'est quelqu'un qui est assez à l'aise dans son savoir pour pouvoir vous dire, ça fait 10 ans... Donc c'est pas normal. Et on va trouver ensemble un médicament parce que ce que vous avez se soigne et se suit. Donc ça peut être un exemple de ce type, mais autrement, vous pouvez aussi mal tomber. Mmh. Ça arrive. Les médecins ne sont pas des surhommes ou des surfemmes. Ça peut arriver de tomber sur des gens qui vous conseillent mal. Mais malgré tout, quand on s'approche de la psychiatrie, on s'approche de la possibilité du diagnostic, et ça, c'est fondamental. De mettre des mots sur ce qu'on traverse. Autrement, on est condamné à errer.
Ce que vous dites d'ailleurs, hein, on va retourner bien sûr au standard très vite, c'est il y a des étapes, grâce à vous, grâce à votre livre, que ceux qui nous écoutent peuvent sauter et aller directement à l'étape psychiatrie, par exemple, c'est ce que vous dites.
Ah oui, mais alors ça peut faire peur parce que moi j'ai vécu cette peur-là en arrivant à Sainte-Anne, avant le rendez-vous, je me disais, mais mon Dieu,
mais rien que le fait d'être à Sainte-Anne.
Mais c'est ça, j'arrive à l'asile, tu finiras à Sainte-Anne, c'est une malédiction. Donc j'avais peur, parce que vous vous dites, là on change les règles du jeu, là c'est fini, les généralistes et tout ça, on oublie, maintenant on rentre à l'asile. Bon, bah, en fait il ne faut pas avoir cette réaction-là, il ne faut pas avoir peur de la psychiatrie, il faut pousser la porte du ou de la psychiatre quand on en a la possibilité. Encore faut-il en avoir la possibilité, hein, parce que les déserts médicaux et les déserts psychiatriques, il y en a, ils sont gigantesques en France. Mais la psychiatrie, c'est la possibilité du diagnostic. Et ça, c'est la seule chose qu'on demande. Qu'est-ce que j'ai ? Pourquoi je souffre ? Pourquoi j'ai envie de me flinguer ? Expliquez-moi, dites-moi. Donc voilà, c'est ce que un psychiatre, c'est la question à laquelle un psychiatre peut répondre.
Et on reviendra dans un instant sur ce paradoxe aussi au moment où le diagnostic arrive, et à la fois exactement comme vous le dites, je le veux le diagnostic, et quand il arrive vous repartez,
je veux pas l'entendre.
Vous voulez pas l'entendre et vous reculez, une chose après l'autre. Voici Audrey, bonsoir Audrey.
Bonsoir.
On vous écoute.
Et ben, vous avez pile poil mis le doigt sur quelque chose, sur le diagnostic qui est refusé, parce que moi j'ai été diagnostiquée il y a plus de 20 ans, j'en ai 40 et j'ai mis très très longtemps à accepter. Voilà, ça c'était pour rebondir, mais sinon je voulais remercier Nicolas, parce que ce que tu as fait, c'est vraiment, je ne sais pas comment le formuler, mais c'est courageux, c'est hyper courageux.
Mais Audrey,
allez-y Nicolas. Je voulais juste dire quelque chose, c'est le livre en fait, il ne poétise pas le réel, et ça c'est hyper important, et aussi un petit clin d'œil sur le orange. Voilà, c'est la couleur que je porte depuis 20 ans, dans le noir. Du coup, c'est très... Mais la question, c'est qu'en fait, je souffre de dépression aussi. Et j'ai les capacités intellectuelles vraiment diminuées. C'est-à-dire l'attention, la concentration, la mémorisation. Et pour une intellectuelle, c'est une souffrance qui aussi dit, en fait, j'ai plus d'identité. Ça se mord la queue, quoi, en fait. On me dit, c'est la dépression qui fait ça, et en même temps, voilà.
Audrey, tu me permets de te poser une question, on va se tutoyer. Tu as des épisodes dépressifs liés à ta bipolarité, ou c'est autre chose ? D'accord.
Et Audrey, moi j'ai
des phases...
Et j'ai une question par-dessus, je voudrais comprendre le refus du diagnostic, en fait. Pourquoi, chez vous, il y a ce refus du diagnostic, ou il y a eu peut-être ce refus du diagnostic ?
Parce que quand j'étais gamine, je disais que l'essence de l'existence, c'était les phases up. C'était quand on était à 5000, c'est une espèce de drogue, en fait. C'est galvanisant, tout le monde vous aime, vous dansez sur les tables, vous êtes lumineuse, vous êtes solaire, et tout à coup, bam. J'ai mis plus de 3 crises à comprendre que, en fait, je paierais tout le temps le prix de la dépression, des crises maniaques, mais ça m'a pas empêché d'en refaire.
Nicolas, sous la question d'Audrey, j'entends comment vous faites. Elle dit qu'elle n'arrive pas à se concentrer, qu'elle n'arrive plus à lire, qu'elle n'arrive pas et que pour une intellectuelle, c'est terrible. Vous vous dites à l'inverse, et au fond, quelle chance que la matinale, notamment, vous dites clairement, c'est mon exosquelette.
Oui.
Donc, c'est ce qui vous maintient aussi l'esprit en alerte.
Voilà, je suis contraint. Je suis contraint par des horaires, contraint par un exercice professionnel, et cette contrainte-là me tient. Bon, voilà, c'est comme ça. Quant à ce que dit Audrey sur les phases maniaques suivies des phases dépressives, c'est vrai qu'il y a une euphorie de la manie. Ah ouais. Quand vous avez l'impression que vous pouvez façonner le monde, que vous pouvez le tordre, que la vie entière est entre vos mains et en votre pouvoir, ce sont des états d'euphorie absolument incroyables. Et quand vous êtes soigné, parce que oui, Audrey a raison, toute phase up est payée d'une phase down, tout moment maniaque est payé d'un moment de dépression. Quand vous êtes soigné et moyennisé,
on s'ennuie, la vous vie dites par éterne, que vous vous ennuyez.
Ouais, la vie par éterne. Et mais bon, il faut apprendre à voilà,
et surtout,
apprendre à l'aimer, cette vie éterne.
Et peut-être surtout pour vous, quand vous décrivez que pour 9 épisodes dépressifs, vous avez un épisode maniaque. Est-ce qu'il arrive parfois, même si vous savez où ça vous emmène, que perdu dans les moments dépressifs, vous attendiez le moment maniaque en disant au moins, je sais où ça m'emmène. Je sais que ça peut être terrible, mais sortez-moi du moment morose.
Il y a des moments où je sens que je suis en train de monter en température, que je suis en train de monter dans les tours, et je laisse monter. C'est-à-dire, ce sont des moments où je devrais appeler mon médecin, mon psychiatre, pour lui dire « je suis en train de monter, attention », et qu'on régule l'humeur via les médicaments, mais je laisse monter. Je laisse monter parce que j'ai envie de vivre, merde, à un moment, excusez-moi Fabienne de le dire comme ça, j'ai envie de vivre, et j'ai envie d'éprouver, et je sais que dans ces moments-là, bah, il faut lâcher la bride, et je vois mon médecin comme un empêcheur de jouir en rond, et je paye la cuenta derrière, parce que pour 3 jours maniaques où les couleurs sont vives, derrière c'est 3 semaines, 1 mois, 3 mois, je paye l'addition derrière.
Est-ce que vous connaissez au point de vous dire, ok, je me laisse monter parce que j'en peux plus, mais je me laisse monter juste une journée, et ensuite je prends les médicaments, ou c'est foutu quand ça commence?
Non, parce que de toute façon, quelle que soit la durée, vous payez l'addition. Et Audrey avait raison de dire que c'est une drogue dure.
Ben oui.
C'est une drogue dure quand vous êtes globalement dépressif, 9 fois sur 10, ouais. Et que tout à coup la vie est belle et le soleil brille. Comment voulez-vous résister à ça? Ben, il faut essayer, et il faut recourir aux médicaments, et il faut retourner, en ce qui me concerne, à l'hôpital Sainte-Anne, mais retourner voir son médecin pour que l'atterrissage ne soit pas un crash.
Être heureux est dangereux, c'est la phrase que je retiens vraiment de votre livre, la phrase de Garoust. Mais il y a un autre moment que je retiens dans ces moments-là. Vous êtes amoureux à un moment.
Oui.
Et c'est formidable parce que vous retrouvez 1000 sensations, vous retrouvez aussi votre corps. Et votre médecin vous douche en disant « faites gaffe parce que vous êtes amoureux, c'est sûrement une phase maniaque
». Oui,
c'est super rude.
Moi j'y arrivais heureux, alors comme le sont les amoureux, c'est-à-dire qu'ils veulent raconter leur vie. Et vous dites « bon, le psychiatre, il est là pour ça, donc je vais lui raconter ce qui se passe ». Enfin, vous voulez papillonner, bon... Et effectivement, je le voyais me regarder avec un air absolument sinistre. Et c'est moi qui lui posais la question. Je lui dis, mais être amoureux, est-ce de la manie? Est-ce que c'est une phase maniaque? Et bon, il a réservé son jugement dans un premier temps, avant de me dire que oui, voilà, il y avait des travaux. Les scientifiques sont divisés sur le sujet. Mais je dirais que tomber amoureux, c'est la manière que les non-bipolaires... ah merde, je me suis lancé dans une phrase trop compliquée. Tomber amoureux, c'est ce qui ressemble le plus pour des gens normaux à une phase maniaque.
Okay. Voilà. Katia est avec nous. Bonsoir Katia.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, déjà en premier, merci de m'accueillir. Et puis, je fais une parenthèse pour Fabienne parce que j'adore votre bienveillance. Pour Nicolas, j'ai une question, mais en fait, vous avez en partie répondu. C'est-à-dire que je me posais la question de savoir si... Donc, vous prenez des médicaments. La question, c'est savoir si en prenant ces médicaments, vous n'avez pas peur de perdre qui vous êtes, votre... Je ne sais pas comment dire qui vous êtes, vous comprenez?
Oui, je comprends parfaitement, Katia. Non, j'ai pas peur d'être altéré, j'ai pas peur de vivre dans une camisole chimique qui m'interdirait d'éprouver, de ressentir. Non, je sais que ces médicaments me permettent d'être, tout simplement. Je mets l'accent sur le verbe. Ça me permet d'être, ça me permet... de continuer à vivre, tout simplement. Donc, ils font partie du paysage. Mais je ne suis pas dans une camisole chimique.
Il y a beaucoup de gens, Nicolas, il y a Dominique notamment sur WhatsApp, qui dit « Parlez-nous de la famille, je vais vous donner quelques exemples. » On a Pascal qui dit ceci « Je suis moi-même diagnostiqué bipolaire de type 2 depuis 2018, 25 ans d'errance. Mon épouse m'a poussé à me soigner, m'a permis de trouver le bon praticien qui a fait le bon diagnostic. Elle me surveille au quotidien pour voir si mon humeur est stable et sans elle, je serais peut-être toujours dans le néant. » On a Bénédicte qu'ici je suis bipolaire de type 2 depuis 15 ans, personne ne le sait. Ni mes parents, ni mes 4 enfants adultes aujourd'hui, ni le père de mes enfants, à part mon conjoint. Aujourd'hui je me sens stabilisée, pas de crise depuis 13 ans, je continue à être instite à mi-temps, dit-elle, je chante, je fais du théâtre, entourée de gens sûrs. Sortirai-je du bois demain, nous dit-elle, je ne sais pas. Et je ne sais pas s'il faut demander à Bénédicte de sortir du bois, mais la famille, Pascal dit par exemple, ma femme me surveille. Est-ce que c'est le mot que vous employeriez aussi, quelqu'un qui vous surveille?
C'est un vrai sujet, disons celui de l'entourage ou des entourages, qu'ils soient amicaux, familiaux ou amoureux. Pour ce qui est de la famille, la mère de mes enfants a été absolument exemplaire dans, comment dire, la manière qu'elle a eue de me laisser être malade mentale, en fait, et de me laisser tout l'espace possible pour que je puisse me soigner. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est une occupation quasiment à plein temps. Ensuite, pour les entourages, c'est compliqué. Entourage amoureux, c'est compliqué parce que vous variez. Vous pouvez être un amour le matin et un sale con le soir. Et avoir la tête complètement vrillée sans savoir ce qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment pas facile. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est que les entourages exportent aussi une partie de leur angoisse sur vous. Exemple type, vous disparaissez 2h30 pour faire une sieste, quelqu'un essaie de vous joindre 3 fois, vous répondez pas, c'est alerte au feu, les pompiers, vite.
Et est-ce que l'inverse existe aussi? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le droit d'être heureux aussi simplement parce que vous êtes content, enfin? Et est-ce que même les moments où vous paraissez heureux, le problème de l'entourage, c'est de savoir le discerner aussi et pas vous demander est-ce que t'es en train de monter ou est-ce que t'es juste heureux?
Oui, alors il y a différentes réactions, mais effectivement, quand on me voit particulièrement heureux, il y a quand même un petit doute sur la nature exacte du combustible.
Mais du coup, vous entendez cette question-là, en fait. Vous le prenez pas mal. Ce que je veux dire, c'est que vous le prenez pas mal. Genre, fous-moi la paix, c'est bon, je suis juste heureux, ou alors laisse-moi monter.
Non, enfin, bon, parfois, oui, je dis lâchez-moi. Ouais. Mais je peux comprendre l'inquiétude, notamment dans les moments de dépression, je peux comprendre l'inquiétude majeure quand, et c'est mon cas, on a fait une tentative de suicide, ce sont des souvenirs qui font que, oui, de l'angoisse est exportée au moment où vous ne répondez pas au téléphone.
D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus, vous parlez de la thérapie comportementaliste et cognitive dans votre livre, vous dites d'ailleurs au début que vous disiez c'est quoi ce truc, ça n'a aucun intérêt, puis finalement, oui, ça a beaucoup, beaucoup d'intérêt. C'est précisément à ça que ça sert, en fait, c'est savoir repérer aussi les phases montantes, les phases descendantes, et savoir agir. Moi, j'ai trouvé ça très émouvant. Agir en phase descendante, c'est juste, c'est pas lève-toi, c'est, je sais pas, retourne ta couette. C'est au moins
C'est change la housse de couette, aère la maison. Est-ce que tu peux sortir une dizaine de minutes aujourd'hui? Non, peut-être demain, on se reparle entre-temps. Ce sont des petites choses comme ça pour essayer de m'arracher au trou abyssal qu'est l'épisode dépressif.
On parle bipolarité avec Nicolas Demorand au téléphone sonne ce soir, d'après son livre aussi qui s'appelle Intérieure Nuit, publié aux éditions Les Arènes. Et avec vous, Ludivine qui est à Tours. Bonsoir Ludivine.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Eh bien, écoutez-moi, tout d'abord, merci Nicolas pour ce livre. Vraiment, je l'ai lu, dévoré d'une traite avec à la fois une certaine douleur parce que, évidemment, ça peut être sombre à certains moments. Et puis avec joie également parce qu'il y a un grand message d'espoir pour tous les patients. Moi, je suis bipolaire, diagnostiquée depuis 10 ans, les aidants et pour porter un autre regard sur la pathologie. Donc moi, je voudrais juste dire quelque chose de très simple. J'ai 46 ans aujourd'hui. Moi, j'ai eu 4 ans de déni plus que d'errance médicale. Je suis très bien suivie et traitée et je voudrais délivrer ce message d'espoir à tous les bipolaires. C'est-à-dire que si on suit bien son traitement, qu'on est bien traité en général par un médicament ou plusieurs évidemment, mais si on suit bien son traitement et qu'en plus on bénéficie, comme je l'ai, d'un accompagnement familial, amical, et ben on s'en sort. On s'en sort très bien. On peut vivre une vie ordinaire. Comme vous le dites, Nicolas, accordez-nous la banalité. On peut vivre une vie affective, familiale, professionnelle. Et même si moi aussi, je me scanne en permanence pour ne pas être trop heureuse, parce qu'effectivement, il y a un risque de danger, on se scanne comme ça tous les jours, ou je sais pas. Mais je voudrais délivrer ce message d'espoir à tous les patients qui souffrent comme moi de bipolarité.
On adore votre message.
Formidable.
Ludivine, merci beaucoup. Merci vraiment pour votre témoignage.
Merci.
On a, d'ailleurs, Nicolas, s'il y a une chose que vous dites aussi dans votre livre, c'est les médicaments, je les prends. Et là, s'il y a un truc que
crucial.
Je ne ferai jamais, c'est d'arrêter de les prendre.
Jamais. C'est crucial. De l'horlogerie, ces ordonnances-là, c'est de l'horlogerie, on vous met tel médicament, on retranche tel autre, on met une demi-pilule de ça, 8 gouttes de ça, enfin, c'est, ça peut être géré chez moi, quand j'ai des crises, qu'elles soient maniaques ou dépressives, ça peut être géré au jour le jour, voire 2 ou 3 fois par jour, de réajuster perpétuellement le traitement, et il ne faut surtout pas arrêter les choses du jour au lendemain sur un coup de tête en se disant j'en ai marre. Et voilà, même si je peux en avoir marre, à certains moments j'en ai ras-le-bol.
Et en revanche, ce qu'on peut faire, c'est contester. Et c'est ce que vous dites aussi, c'est-à-dire, c'est marrant parce que c'est le seul chapitre où vous étiez en colère. Vous avez le droit de contester si ça marche pas, si l'ordonnance marche pas, vous en demandez une autre. Si le médecin marche pas, vous en demandez un autre. Si vous avez le droit de demander ce que fait ce médicament-là, ce que font ces gouttes-là. Et ça, pour le coup, il faut que les malades le fassent.
Ça, moi, je l'ai appris très et trop tard. Je l'ai appris au terme de l'errance médicale où je prenais comme un bon petit soldat la totalité des médicaments qu'on me demandait de prendre, alors même qu'ils ne marchaient pas.
Parce que c'est les médecins qui savent.
Ben voilà. Et voilà, eux ils savent, nous on avale et on souffre. Donc ça ne marchait pas. Et à Sainte-Anne, la question de changer de médicament a été posée dès le premier jour. Vos médicaments n'ont pas marché, on va en trouver d'autres. Au bout de 15 jours, alors est-ce que ça va mieux? Non, ça va pas mieux. Bon ben on va changer. Et au troisième coup, on tombe sur le bon antidépresseur. Donc il faut pas avoir un rapport magique aux médicaments. Si vous allez voir votre généraliste pour un épisode dépressif et que les antidépresseurs ne marchent pas, bah c'est peut-être pas les bons. Voilà, il faut poser la question.
Voici Christine qui dit « Je suis maman d'une femme de 24 ans diagnostiquée bipolaire il y a 3 ans. Il est primordial, nous dit-elle, d'avoir des exemples de personnes rétablies. Lorsque nous sommes dans la tourmente, les témoignages comme le vôtre sont la lumière au bout du tunnel. » Moi, c'est le mot « rétabli », Nicolas, qui m'intéresse dans le message de Christine. Est-ce qu'on dit « rétabli » Vous utilisez le mot de votre médecin qui dit qu'il s'est stabilisé l'avion.
Voilà, stabiliser l'avion, moi, c'est le seul mot que je puisse avoir, mais... Je note tout de même que depuis que j'ai pris la parole publiquement pour dire je suis un malade mental, je note la disparition de 20 à 30 tonnes de mes épaules et le fait que quand on me dit alors comment ça va, ben je réponds ça va, ce qui est pour moi une victoire incroyable, juste dire ça va. Je ne sais plus quand j'ai prononcé cette phrase.
Vous demandez dans votre livre si vous avez été heureux. Vous ne savez pas répondre à cette question. J'imagine que vous ne le savez pas plus.
Celle-là, je ne sais toujours pas y répondre.
En revanche, vous dites que vous êtes bien 2 mois par an. Peut-être que cette moyenne bouge grâce à ce que vous êtes en train de faire, allez savoir.
Peut-être.
Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Rosine est avec nous. Bonsoir, Rosine.
Bonsoir.
On vous écoute, Rosine.
Alors, merci. Vraiment, merci. Si vous saviez, on était dans les Côtes d'Armor ce week-end. En ça, t'as fait une belle randonnée sur les crêtes et on a beaucoup pensé. Je venais d'écouter une bribe de votre témoignage que j'ai écouté en entier après avec mon mari. On a été très émus. On a une fille qui a 25 ans et ça a commencé, elle avait 14 ans. Elle a été diagnostiquée plutôt à l'âge de 22 ans quand elle a été adulte. Son psychiatre avant ne voulait pas mettre de mots, mais il l'a beaucoup aidé. On voulait vous dire que on l'a failli la perdre plusieurs fois. Aujourd'hui, elle a elle est évidemment brillante, je crois que comme beaucoup de gens dans ce cas-là, elle est brillante intellectuellement, artistiquement. C'est notre amour qui l'a sauvée jusqu'à présent, avec deux médecins psychiatres qui ont été une femme qui est à la retraite et puis un homme qui est vraiment formidable. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les détails que vous donnez, notamment quand vous dites que vous faites votre pharmacie à la maison. Mmh. Je vous avoue que nous, en tant que maman, il y a des moments, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle bricole ? Alors que c'est vu avec son psychiatre et qu'elle adapte ses comprimés. Mmh. Et merci, mais il reste tant à faire et on a failli la perdre plusieurs fois. Vouloir vous dire que l'entourage, nous, on a eu parfois le SAMU dans la rue, la gendarmerie, parce qu'elle était majeure et personne ne sort des maisons, personne ne vient, personne. Mmh. Et désormais, Romane, elle peut dire qu'elle est malade mentale, mais c'est encore un choc, c'est pas forcément bien reçu. Mmh. Voilà.
Mais Rosine, vous avez fini, Rosine, parce que je veux pas vous interrompre.
Non, c'est tellement important pour nous aussi. Et merci, parce que j'ai voulu vous envoyer un message pour la partie.
Merci à vous.
Merci, Rosine. Merci. Merci beaucoup, Rosine. Je voudrais dire, Nicolas, que vous avez reçu des tonnes et des tonnes de messages, que vous y répondez. Il faut juste le temps, parce que des tonnes et des tonnes, ça met du temps.
Et des lettres en papier.
Mais on la salue, Rosine. On croise les doigts pour elle. Elle avance des témoignages comme cela. Je vous en livrerai juste quelques-uns. On a Clément qui dit bravo à Nicolas Dumorand de s'être exprimé. La maladie mentale fait peur parce qu'on a peur que ça nous arrive. On a Isabelle qui dit j'éprouve le besoin de remercier Nicolas Dumorand pour son courage, son authenticité, son intelligence, ses qualités humaines. Le savoir malade me touche profondément. J'ai lu Intérieur nu deux fois déjà, tant le récit est dense et marquant. Olivier dit, je suis infirmier en psychiatrie. Je voulais remercier Monsieur Demorand pour son témoignage. Ça ouvre des possibilités. Moins de stigmatisation, moins de honte aussi pour les patients. On a Kiki qui dit ceci, je vous écoute tous les matins. J'ai lu votre livre. Je tenais à vous dire mon admiration pour oser dénoncer cette maladie. Votre livre est bouleversant et je vous écoute de façon différente, nous dit-il. Eh bien moi, je me demandais, Nicolas, si ça vous embêtait.
Ça me met les larmes aux yeux.
Ouais, je me demandais si ça vous perturbe, comment vous ressentez quand on vous dit qu'on vous écoute aujourd'hui différemment, en fait.
C'est étonnant, parce que oui, j'ai des gens qui me disent beaucoup qu'ils ont peur que je trébuche, en fait. C'est une écoute quasi médicale ou clinique, en se disant mais dans quel état de forme est-il, de forme ou de méforme est-il ce matin. Et j'essaye de continuer à faire de la radio normalement. Et à côté de ça, pour moi, cette prise de parole était nécessaire. Parce que j'en avais ras-le-bol de mentir et de me cacher, et que mentir et se cacher, quand on transfère ça à notre métier, c'est pas possible. Donc on fait pas du journalisme pour mentir et se cacher. Donc à un moment, la contradiction devenait impossible. Et il fallait que je respire.
Et en même temps, je vous écoute et... Vous racontez très bien au début de ce livre combien l'écriture, ou en tout cas le démarrage de l'écriture, a été extrêmement raide, en vous disant, mais enfin, comment c'est possible de retomber précisément parce qu'on en parle? Mais là, je vous entends en parler, vous en parlez depuis un certain temps, vous répondez au courrier, et est-ce que je me trompe? J'ai l'impression que le fait d'en parler est moins douloureux que de l'écrire. Peut-être parce que c'était pour la première fois que vous le mettiez sur papier, en fait.
Oui. Aujourd'hui, enfin, l'expression libération de la parole, qui est employée pour 1000 sujets et combat, j'en fais l'expérience. Je vois les vertus curatives de la parole depuis quelques jours maintenant. Et le livre, en fait, je l'ai écrit en trois moments distincts, mais de manière assez simple. Et, et assez naturel et avec un assez grand plaisir. Ça me permettait, écrire me permettait de recomposer les fragments épars dans ma tête. Et, et ça a été pour moi une manière de me ramasser, au bon sens du terme, de me récupérer, voilà, et d'écrire surtout... de remettre un peu de cohérence dans un autoportrait qui était complètement fracturé.
Je vous laisse souffler quelques minutes, Nicolas, pour accueillir Chantal Henry qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en psychiatrie au Centre Hospitalier de Sainte-Anne à Paris. Vous êtes spécialiste des troubles bipolaires. On avait envie de vous avoir sur le plateau, mais vous aviez vous aussi envie d'y être, en fait, pour pouvoir aussi échanger avec Nicolas. Moi, je me demandais jusqu'à quel point, quand c'est une personne publique qui parle, quand on en parle ouvertement, ça vous fait avancer de combien de cases ?
Beaucoup. Mmh. Et si je suis là, c'est... je préfère écouter Nicolas Demorand, c'est juste pour le remercier, au nom de la profession, mais aussi au nom des patients. Et cet après-midi, j'avais des consultations, et j'ai une patiente, donc plutôt que d'utiliser mes mots, je vais utiliser les siens. Mmh. Voilà, cette patiente m'a dit « Je suis très reconnaissante à Nicolas Demorand de dire qu'il s'agit d'une maladie. Pendant longtemps, j'ai pensé que je manquais de courage, que je m'écoutais trop. C'est bien que ça soit un homme comme lui, une personne comme lui, un homme de culture qui traite des sujets sérieux de l'actualité, en fait. Et c'est extrêmement important parce que elle disait, finalement, souvent ce sont des artistes, et on associe toujours, en fait, les troubles de l'humeur à la créativité, et lui, c'est une, voilà, un gage de sérieux, on connaît sa rigueur.
Mais du coup,
etc.
Vous pouvez l'utiliser, non, en disant à vos patients, regardez, Nicolas Demorand, ça ne lui empêche pas de faire la matinale de France Inter.
Exactement, et le message que ça véhicule, en fait, c'est, malgré la maladie, tout reste possible. Et je crois que les témoignages là qu'on a entendus ce soir, c'est un message positif. Et donc, bien sûr, qu'il faut rencontrer un psychiatre, la bonne personne. J'ai été très touchée de lire la description sur ce qu'on appelle maintenant de manière tout à fait désincarnée l'alliance thérapeutique. Mais vous voyez, vous racontez que vous parlez même de couple.
Oui. Ouais.
Vous êtes en couple avec votre psy, c'est vrai.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais en tous les cas, c'est vraiment une relation qui est importante et qui vous permet d'accepter le diagnostic, d'accepter de prendre des traitements qui ont des effets secondaires, de comprendre et de vous rassembler, comme vous dites.
Est-ce que vous êtes capable, Chantal Henry, de dire la même chose à vos patients que l'un des psys a dit à Nicolas ? C'est vrai, bon, il y a le suicide, mais il y a aussi la vie. Vous êtes capable de prononcer des mots comme ça ?
Apparemment, ce psychanalyste l'a déjà dit.
Ah, c'est vrai ? Ah, ouais. Mince.
Bon, finalement, c'est...
Mais est-ce que... pardon, Nicolas.
Oui, c'est important de dire que on parle là de maladie.
Oui, oui, absolument.
C'est pas j'ai un trou qui me fait de l'air.
Exactement.
Voilà, ça va pas, je suis un peu déprimé. Oui, bah, bouge-toi,
oui,
va faire
ça,
un
ouais,
tour.
Ouais, ouais, ouais.
Et arrête de nous
coup,
emmerder,
bois
un coup, ça ira mieux. Ouais. On parle de maladie. Au même sens que le cancer ou autre chose. Et on parle de maladie.
Sauf que vous dites, d'ailleurs c'est intéressant, que celle-ci vous définit forcément, puisque c'est à votre personnalité qu'elle touche.
Oui.
Et vous le dites très bien d'ailleurs, un cancer ne définit pas la personne qui est atteinte du cancer. Une maladie mentale, oui, puisque vous la trimballez sur votre dos toute la journée, enfin dans votre tête toute la journée.
Et j'ai appris moi à ne pas me révolter contre ça en fait. Voilà, c'est comme ça. J'y peux rien.
Est-ce que... Tout ce que tout le monde dit, Chantal Henry, c'est le parcours et l'errance. Et je me demandais typiquement si c'était exactement ce genre de témoignage qui pouvait raccourcir cette errance. Quand Nicolas dit « Allez directement, effectivement, chez le psychiatre, c'est pas la peine, vous pouvez vous épargner un certain nombre d'étapes », ça aussi, ça peut raccourcir cette fameuse errance.
Bien évidemment, la prise en charge, le diagnostic, c'est un diagnostic qui est fait généralement par un psychiatre, et la prise en charge nécessite en fait une prise en charge psychiatrique. Alors bien sûr que parfois, dans certains endroits, il y a des déserts médicaux et que certains médecins généralistes participent à cette prise en charge, mais c'est essentiel. Et vous avez pu bénéficier aussi d'une prise en charge psychothérapeutique avec de la thérapie cognitive et comportementale qui a aussi son importance. C'est une prise en charge vraiment globale et spécialisé.
Il y a beaucoup, pardon. Ouais.
Et moi, je ne veux pas jeter la pierre aux généralistes qui ont peu de temps pour voir un patient. Ce sont des, je parle sous votre contrôle, des maladies extrêmement difficiles à diagnostiquer. Allez voir la différence quand vous avez pendant 20 minutes un patient devant vous. Allez voir la différence entre une dépression et une maniaco-dépression, c'est quand même pas simple, hein, c'est quand même pas simple. Mais moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que si ça continue à aller mal au bout de je sais pas combien de mois, il faut aller vers la psychiatrie. Moi, j'ai attendu 15 ans. J'ai attendu 15 ans, c'est monstrueux.
Je voudrais qu'on prenne la question d'Evelyne. Bonsoir, Evelyne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, eh bien, merci beaucoup pour votre émission et merci à Nicolas Demeurant qui a eu le courage de dédramatiser cette maladie et ça fait un bien fou à tout le monde. On se sent moins à la marge. Alors nous avons un cas de bipolarité dans notre famille avec notre fille qui effectivement avant le diagnostic est passée par des tas de traitements d'antidépression jusqu'au moment où traitée en psychiatrie, elle est soignée au lithium. Et c'est vraiment magique dans son cas. Dans son cas, elle ne prend plus d'antidépresseurs et elle a vraiment une régularité de son humeur qui lui permet de vivre une vie tout à fait normale professionnellement. Elle est entrepreneuse, elle est très stable dans ses humeurs et donc toute la famille en profite. C'est vraiment, voudrais vraiment savoir si cette piste peut être.
Evelyne, pardon de vous interrompre, mais il nous reste vraiment une toute petite poignée de secondes. On vous remercie vraiment. Vous en parlez du lithium, vous, Nicolas.
Oui. Effectivement, au début, je voulais pas.
Exactement, mais il y a tellement de trucs que vous vouliez pas au début.
Mais oui, mais je me rebelle. Qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai passé tellement d'années à être un bon soldat de la maladie mal soignée que, c'est à l'hôpital Sainte-Anne que je me suis rebellé et je prends du lithium aussi, c'est formidable.
Est-ce qu'on peut avoir cette conclusion, Chantal Henry, pour certains en tout cas, vive le lithium, vraisemblablement?
Oui, le lithium change la vie de beaucoup vraiment de patients.
J'ai deux questions très très rapides, Nicolas. Un, la recette du monde alors, non?
Je l'ai oublié.
Eh ben bravo, merci beaucoup. Et le terrain de tennis de Sainte-Anne, toujours pas?
Toujours pas, moi je ne sais pas pourquoi il y a un terrain de tennis à Sainte-Anne, mais ça reste un objet pour moi d'investigation.
Interdit hors nuit, publié chez Les Arènes et signé Nicolas Demeurant. Merci beaucoup Nicolas, vous avez fait du bien
merci
beaucoup
à
de monde. Et c'était formidable de vous avoir, merci vraiment.